Mardi 9 octobre, plusieurs syndicats ont appelé à manifester contre la casse sociale suite aux différentes réformes mises en place par le gouvernement. Lycéens, étudiants, personnels de santé, retraités et citoyens se sont mobilisés pour afficher leur frustration et leur colère contre les réformes du gouvernement. Reportage réalisé par Charles Ducrot et Luc Chaden, nos envoyés spéciaux sur place. Charles a d'abord interviewé Adrien Quatennens, député de la première circonscription du Nord pour la France Insoumise, et Jacques Lefebvre, responsable CGT de l'USR Nord, l'Union syndicale des retraités.
On est là ! On est là !
Si vous ne voulez pas, nous on est là !
Non mais elle est là dans mon oreille, elle
est On est là !
Cette rentrée sociale, c'est une nouvelle manière, enfin, c'est une manière de plus d'affirmer encore une fois le leadership de l'opposition pour la France Insoumise.
Surtout une manière d'utiliser tous les leviers dont nous disposons pour envoyer un message à Emmanuel Macron qui, parce qu'il bénéficie des institutions de la Ve République, est complètement enfermé dans ses certitudes. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que l'opinion, un an et demi après son arrivée au pouvoir, le désavoue, que les résultats, y compris de son propre point de vue, ne sont pas au rendez-vous, et que malgré tout, il nous dit « je ne vais pas changer de politique, je continue droit dans ma trajectoire ». Donc il y a de multiples façons de nous adresser à lui, la manifestation en est une. Et en attendant de pouvoir de nouveau utiliser les bulletins de vote dès les élections européennes du mois de mai, effectivement, nous, c'est notre tradition, on est au renfort des syndicats, de celles et ceux qui, pour le coup, sont les premiers de cordée de la mobilisation sociale, avec toujours l'espoir que de nouvelles personnes qui ne sont pas habituées à manifester, eh bien, descendent dans la rue, parce que de toute façon, dans tous les secteurs de la société, on comprend qu'il y a l'impasse d'un modèle. Voilà le sens de notre présence aujourd'hui, c'est un début.
Un mot sur le remaniement, on fait fausse route ?
Écoutez, ce qu'il y a de clair, c'est qu'à partir du moment où on a un président de la République qui nous dit « je ne changerai pas de politique », alors qu'on sait que ses trajectoires budgétaires sont mortifères, qu'au niveau du défi climatique, il nous met considérablement en retard, et puis qu'il croit encore que c'est en donnant plus d'argent à ceux qui en ont déjà le plus que toute l'économie va en être irriguée, il se trompe. Donc remaniement, j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est pas passionnant, c'est tout au plus une diversion. Mais de toute façon, vu y compris les désaffections qu'il a eues dans son propre camp, entre Bayrou, Hulot, Colomb, on voit bien que on n'aura affaire qu'à des seconds ou troisième couteaux. Donc si vous voulez, ce remaniement, c'est une tentative de diversion, mais ça ne va pas nous faire oublier que la politique, malheureusement, va rester la même.
Lefebvre, Jacques. Moi, je suis responsable des retraités CGT du Nord.
Si vous aviez un mot à adresser à Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi aujourd'hui ?
Voleur. Voleur. S'il augmente la CSG, il ponctionne le pouvoir d'achat des retraités et ça n'arrête pas de continuer. Donc il y a la CSG, mais il y a la non-revalorisation des pensions. Et ce qui a été annoncé, y compris pour 2019 et 2020, 0,3% d'augmentation, alors qu'on sait qu'actuellement on est déjà à 2% d'inflation, et qu'il y a une loi, la loi de 2003, qui a été votée sous le gouvernement Fillon, qui oblige à ce que la revalorisation des pensions se fasse au niveau de l'inflation. Quoi. Donc ils ne respectent même pas la loi. Quoi.
Et concrètement, de quoi avez-vous peur pour l'avenir ?
Ah ben l'avenir, c'est noté sur notre banderole. Nous, les retraités, sont en colère pour eux-mêmes, par rapport à leur pouvoir d'achat, la santé, mais aussi pour les enfants, les petits-enfants, les générations futures. Donc il y a besoin de pouvoir d'achat, il y a besoin de pouvoir se soigner, il y a besoin de pouvoir prendre sa retraite dans de bonnes conditions. Et ça vaut pour les retraités d'aujourd'hui, mais comme pour les générations futures.
Remaniement au gouvernement, vous pensez que ça va changer quelque chose ou pas du tout ?
Ah, c'est la mobilisation qui fera changer les choses. Aujourd'hui, on a vu depuis ces 20 dernières années que les gouvernements successifs ont pris des mesures et quand on n'a pas la mobilisation, malheureusement, on a des élus et sous prétexte qu'ils ont été élus démocratiquement, ça c'est un fait, on ne le remettra pas en cause, mais ils font ce qu'ils veulent, quoi, ce qu'ils décident. Donc ils sont dans des choix politiques contraires à la société, contraires au progrès social, donc on a besoin de fortes mobilisations partout.
Alors on a beaucoup parlé du printemps social l'année dernière, les retraités étaient déjà mobilisés. Est-ce que vous vous êtes senti écouté ou alors il y a vraiment le fossé se fait vraiment de plus en plus grand entre la politique et les citoyens qui manifestent ?
Oui, il y a un fossé qui est de plus en plus évident, d'ailleurs qui est noté y compris par la plupart des commentateurs. Quoi. Donc ce fossé il existe avec les retraités mais aussi avec la jeunesse, avec les salariés à l'entreprise. Par rapport aux non-réponses justement aux besoins sociaux, que ce soit en matière d'emploi, avec la précarité qui augmente, que ce soit l'égalité homme-femme, la question des salaires ou la question des retraites, la question de la santé. Là, on est vraiment sur des enjeux de société, c'est notre modèle social, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans le cadre de la manif d'aujourd'hui. notre modèle social français qui est remis en cause dans tous ses aspects. Et ça, ça concerne toutes les couches de la société.
Alors je m'appelle Swazik Lozakmeur, j'ai 24 ans, je suis secrétaire fédérale du mouvement des jeunes communistes de la Fédération du Nord. Ce qui mobilise aujourd'hui, c'est tout simplement contre la casse sociale de Macron. Il attaque partout, les vieux, les jeunes, les salariés, les fonctionnaires, nos camarades cheminots, tout le monde en prend plein sa gueule. Si le moment de l'unité ne vient pas maintenant, on va tous y perdre. Donc c'est pour ça qu'à la jeunesse communiste, on fait tout pour que la convergence soit réellement possible. Ce matin, par exemple, à l'université de Sciences Humaines de Lille, du coup l'ancienne Lille 3, on a organisé un meeting avec des camarades de la CGT de plein de secteurs. Il y avait des pompiers, des profs, enfin beaucoup d'autres secteurs, je ne me souviens plus exactement la liste. Donc en fait, pour expliquer aussi aux étudiants qui ne restent pas dans leur microcosme, parce que enfin, moi je ne suis plus étudiante depuis pas mal de temps, mais pour leur montrer que la convergence est nécessaire et leur montrer que bah, plus tard, même s'ils ont un diplôme finalement, on va avoir quoi ? On va avoir du temps partiel, surtout les femmes. On va avoir du temps partiel, on va avoir des emplois précaires, ils vont vouloir nous repasser des contrats pourris. Dans le meilleur des cas, à 25 ans, on aura le RSA et ça sera encore plus bas. La baisse des APL, tout ça. Et en fait, on travaille tous les jours à ça en ce moment. Et là, je suis très contente parce que la manif à Lille, il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de jeunes. Pour moi, c'est le début d'une belle mobilisation, à mon avis.
Alors tu parles du début, mais la mobilisation, elle avait déjà commencé avant les vacances. Fin juin, elle s'était un peu éteinte. Qu'est-ce qui pourrait laisser croire que là, on la rentrée sociale, il y a un regain, un renouveau, une vraie mobilisation, une vraie opposition qui se construise?
C'est vrai qu'il y a eu un temps mort avec les vacances, avec un peu la fin de la mobilisation bah, contre la sélection. On est toujours mobilisé dessus, mais c'est un peu compliqué. Bah, je pense que là, la mobilisation va continuer. Il y a bientôt le plan retraite qui va commencer à sortir. Il y a les impôts aussi, le prélèvement à la source. Les pompiers aussi en ce moment se mobilisent. Je pense que tout le monde se rend compte que la politique que mène le gouvernement Macron, c'est vraiment pas la politique qu'il faut pour les travailleurs et les travailleuses. Je pense que le mouvement va grossir à mon avis. J'espère, je touche du bois.
Ouais, et tu penses que justement le fait que les réformes touchent tous les secteurs du monde social, du monde professionnel, ça peut jouer pour mobiliser davantage de personnes ou est-ce qu'il va falloir plus que ça ? Il y a encore beaucoup de gens qui... Bon, aujourd'hui, c'est très rouge, par exemple. Est-ce que c'est pas les autres aussi qu'il faudrait essayer de mobiliser ?
Bah, c'est la priorité, c'est de mobiliser les personnes qui sont pas forcément encartées à la jeunesse communiste, au parti ou à la CGT. Et ça va être ça, le gros enjeu, c'est de montrer que c'est pas seulement nous, les communistes qui voyons le mal partout, mais que réellement les réformes que le gouvernement fait passer sont mal pour l'ensemble de la population. En réalité, je pense que Macron, toutes ses déclarations vont dans notre sens finalement, parce que toutes les dégueulasseries qu'il peut dire sur les retraités qui sont des privilégiés, les chômeurs qui doivent traverser la rue pour trouver du taf, je pense sincèrement que ça choque l'opinion publique aussi. Les gens voient très bien que ce mec, c'est pas... Il fait pas partie de notre classe sociale, quoi. C'est notre ennemi, donc je pense que les gens vont s'en rendre compte et s'en rendent déjà compte.
Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui disaient « Bon, moi, je vais pas, s'il n'y a pas de grève générale, je ne viendrai pas aujourd'hui parce qu'une journée comme ça, c'est perdre du salaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas muscler, en fait, l'opposition ?»
Bah, muscler l'opposition par des black blocs, etc., je ne pense vraiment pas. Il ne faut pas oublier aussi que dans les manifs plan-plan, des fois, c'est un peu chiant. Mais il y a aussi des familles, il y a des enfants, il y a des retraités. Et c'est pas en mettant 20 excités étudiants en sociaux qui veulent se castagner avec les keufs que la jeunesse, que tout le monde va vouloir rejoindre le mouvement. Et là, l'enjeu, ça va être que tous les secteurs travaillent ensemble, vraiment. Qu'importe Parti communiste, France insoumise, CGT, Solidaire. Au bout d'un moment, on est tous dans le même camp et il va vraiment falloir qu'on s'entende et qu'on mobilise plus largement. Sinon, on va rester en bataille de chapelle et le mouvement va crever et ça sera de notre faute.
Je m'appelle Camille, je suis étudiante en prépa IEP à la fac de Lille 3 et je viens ici pour lutter contre la sélection et les réformes qui peuvent être mises en place par le gouvernement actuel.
La sélection, elle est en place depuis cette rentrée. Comment ça se passe ?
Bah, pour moi, ça s'est bien passé, mais je pense que je ne suis pas là pour moi, je suis là pour les autres, pour ceux qui n'ont pas pu accéder à la place qu'ils avaient demandé, pour ceux qui n'ont pas pu être admis dans les filières qu'ils avaient demandé, pour tous ceux qui se retrouvent sans inscription, qui galèrent en ce moment pour se réorienter, et pour tous les gens qui vont ensuite, par la suite, devoir repasser par cette plateforme de sélection de Parcoursup qui nous a amenés ici. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a une mobilisation qui s'organise actuellement dans les facultés, dans les universités ?
Bah, on essaye de lutter, du moins ici, moi en tant que militante au syndicat de l'UNEF, on essaye de lutter contre cette sélection, on essaye de faire en sorte de faire avancer les choses en défendant tout le monde, surtout en prenant l'avis des étudiants pour justement créer ces mobilisations qui nous mèneront ensuite à une plus grande ampleur dans la mobilisation étudiante, et j'espère que ça va continuer.
Jusque-là, les cheminots, les manifestations interpro, intersyndicales qui ont eu lieu, elles n'ont pas réellement porté de fruits, quoi. Le rouleau compresseur continue d'avancer. Est-ce que là, je sais pas, est-ce que ça se présente d'une nouvelle manière en cette rentrée ?
Je pense qu'il faut continuer et que tout le monde est encore prêt à aller de l'avant et à se battre contre toutes les réformes qui peuvent être faites. Et je pense qu'il faut qu'on continue et que le mouvement va reprendre, j'espère.
En gros, maintenant qu'on a vu ce que c'était le désastre de Parcoursup en direct et qu'on y a assisté officiellement, bah, je pense que les choses vont changer maintenant parce que les étudiants, ils ont compris, les lycéens, ils ont compris, les parents de ces lycéens ont compris et maintenant, ça devrait bouger un peu plus que l'année dernière.
On sait pourquoi les gens se mobilisent. Est-ce qu'il y a la question qui se pose de comment ?
Bah nous, en fait, ce qu'on fait à l'UNEF, c'est qu'on va mobiliser sur les universités, évidemment. Et en fait, il faut faire surtout un travail d'information en amont des manifestations ou juste un travail d'information constant. On va mener des campagnes, on sera diffuser des tracts, faire des interventions en amphi pour prévenir tous les étudiants. Et on fera passer le mot sur les réseaux sociaux. Et déjà, ce travail d'information, en fait, il est super important parce que quand les étudiants, ils savent pas ce qui se passe, ils vont pas se mobiliser. Et ensuite, il faut les motiver à se mobiliser avec nous, les inviter à aller en manifestation, leur expliquer pourquoi c'est important.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me dire ce qui te mobilise ?
Alors, moi, c'est Delphan Sylvain, je suis agent de restauration au CHRU de Lille. En restauration, et ce qui mobilise, c'est le maintien des services publics et le combat pour les retraites et pour le bien des salariés. Maintenant, c'est l'humain après et l'argent d'abord, quoi. Je sais pas comment dire trop la situation.
Est-ce que tu as participé à d'autres manifestations dans l'année ? Ça reprend là en septembre. Est-ce qu'il y a de quoi avoir de l'espoir de voir une vraie mobilisation et de réussir surtout à faire fléchir le gouvernement ?
Après, l'espoir, je pense qu'il faut le garder, hein. Sinon on ne serait pas où on est actuellement, quoi. Maintenant, c'est sûr qu'on est frustrés, Après, il y a des attaques de partout, notamment tout ce qui est l'action syndicale, les militants syndicaux. L'année prochaine, il risque d'y avoir des nouvelles réformes, enfin, une volonté politique de casser le code du travail par le biais des CHSCT qui veulent supprimer. Après, on espère toujours qu'un jour ou l'autre, le français travailleur, comme tous les français, se mobiliseront et qu'on arrive à faire fléchir le gouvernement. Pour l'instant, c'est pas gagné, j'avoue, mais on garde espoir.
Qu'est-ce qui manque un peu dans la mobilisation ?
Rapport de force, hein, il manque le rapport de force, il manque les gens, je sais pas dire comment, il manque la mobilisation.
Donc je suis Isabelle Bossement, je suis militante à la CGT du CHRU de Lille. Je suis éducatrice spécialisée en psychiatrie et en milieu carcéral, donc pour le CHU de Lille, je travaille en centre pénitentiaire. Et on est mobilisé aujourd'hui contre la politique générale menée par le gouvernement. Et puis bien sûr plus particulièrement sur les questions de l'hôpital public et de sa défense.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le plan santé qui a été annoncé en septembre ?
Donc le plan santé, ben, il n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et des enjeux immédiats qui se présentent à nous, puisque de toute façon, il ne répond pas aux problèmes urgents, hein. Donc sur la formation des médecins, puisque là, en effet, on a un véritable problème et un véritable basculement. En tout cas, moi, je vais parler sur le CHU de Lille, puisqu'on a un problème de démographie médicale qui est dénoncé notamment par la CGT et beaucoup d'autres depuis plus de 30 ans et sur lequel on n'a rien fait. Et on se retrouve aujourd'hui dans l'impasse avec une pénurie de médecins, donc de radiologues, d'anesthésistes. Et donc une impossibilité aujourd'hui pour le secteur public de répondre aux besoins de la population sur certaines disciplines, sur certaines spécialités. Mais qu'on ne s'en fasse pas, puisqu'on a le développement des cliniques privées qui, elles, ont les moyens de recruter les médecins et ont les moyens de les former et de leur fournir les plateaux techniques. Et donc, les cliniques privées sont en train de développer et de se développer sur les activités forcément rentables et parce qu'elles ont encore cette capacité à attirer les médecins. Donc, le plan de santé, on va dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près ça, sauf que le numerus clausus, ils le font sauter dans quelques années et le temps de former les médecins, de toute façon, on restera dans cette pénurie. Donc ce qui est proposé comme alternative et en attendant, c'est des dépassements de compétences. Donc ce sont les infirmières de pratique avancée, ce sont des personnels auxquels on va donner des compétences médicales qu'elles ne sont pas censées avoir. On a entendu parler des assistantes médicales qui sont des espèces d'alternatives à l'infirmière. Donc en fait, on est en train de déstructurer tous les métiers de l'hôpital pour répondre à un problème urgent qui était tout à fait prévisible. Donc il faut croire qu'on a eu 30 ans d'incompétence quand même au ministère de la Santé pour en arriver à ça et qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse à la hauteur. Donc aujourd'hui, on a quand même toujours un problème sur les urgences qui fonctionnent par crise. Donc la crise des urgences, on l'a connue l'hiver dernier, on l'a connue cet été et donc on aura de toute façon des périodes cycliques avec les épidémies qu'on n'arrive même plus à absorber. Donc la question, par exemple, des médecins urgentistes n'est toujours pas traitée. On a un plan de santé qui néglige complètement la question des urgences, alors que là aussi, on a une pénurie de médecins urgentistes. Le peu qui sont encore attachés au service public et qui souhaitent y rester, de toute façon, ils vivent des conditions de travail intenables. Donc ils finissent de toute façon par partir d'une manière ou d'une autre.
On reste dans un plan d'austérité budgétaire, avec l'annonce que c'est surtout sur le plan organisationnel que pourront être assurés des soins dignes et corrects.
Donc visiblement aujourd'hui en effet la seule chose qu'ils retiennent c'est que c'est pas un manque de moyens, c'est un problème d'organisation du système de soins et de santé. Donc on a eu ça fait déjà quelques années en fait qu'ils ont ce discours et cette idée. Et notamment sous le dernier gouvernement, ce qu'ils ont appelé le virage ambulatoire avec le tout ambulatoire, c'est-à-dire qu'on ferme des lits d'hospitalisation complètes pour mener de plus en plus d'interventions sur la journée. En fait, vous entrez le matin, vous subissez l'intervention chirurgicale, vous rentrez chez vous le soir. Donc le virage ambulatoire, il était peut-être très bien, mais il ne fallait absolument pas fermer les lits d'hospitalisation complète en parallèle. Donc on n'est pas en train de compléter une offre de soins, on est en train de la transformer. Mais l'offre de soins n'est pas suffisante, de toute façon. Donc elle reste insuffisante et on se contente de la transformer et on vient finalement aggraver certaines prises en charge. Notamment pour les plus isolés et les plus précaires, c'est toujours pareil. Quand vous êtes hospitalisé, que vous subissez une intervention chirurgicale en ambulatoire, si vous avez une famille et les moyens qu'il faut pour vous accueillir à la maison le soir et dans les jours qui suivent pour vous prendre en charge et vous aider, très bien. Si vous êtes une personne âgée, isolée, qui n'a pas les moyens, vous rentrez chez vous le soir, vous restez seul. Et puis au final, quand il y a un problème, vous revenez dans le circuit des urgences. C'est aussi ça le problème des urgences de cet hiver.
Ça fait un moment que la mobilisation pour le service public dure, au moins toute cette année. Est-ce qu'il se pose la question de renouveler les formes de lutte ?
Ça, c'est déjà fait, en fait, à l'hôpital. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à l'hôpital, alors on a toujours eu à l'hôpital public un droit de grève restreint qui est toujours organisé en fonction de la continuité de service qui est obligatoire pour le service public, donc la continuité des soins. Aujourd'hui, on a tellement peu d'effectifs à l'hôpital que finalement, quand vous déposez un préavis de grève et que les agents veulent se mettre en grève, ils sont tous assignés. Donc on a tué le droit de grève à l'hôpital, donc aujourd'hui il n'y a plus de levier par la grève à l'hôpital, il n'y a plus de levier par l'activité, donc il n'y a plus une grève qui peut gêner de toute façon. Donc aujourd'hui les formes de lutte à l'hôpital, vous pouvez l'observer partout, elles évoluent et elles sont à mon sens dramatiques parce qu'on se retrouve avec des lanceurs d'alerte individuellement puisque de toute façon collectivement on ne peut plus rien organiser. On se retrouve avec des gens qui sont obligés dans leur lutte de faire des choix extrême, notamment la grève de la faim. Donc voilà, le fait de tuer le droit de grève, il faut que la colère et que la détresse puisse s'exprimer autrement. Donc les gens prennent d'autres chemins. Et à l'hôpital, on se retrouve avec des mouvements très durs, très conflictuels, où les gens choisissent des solutions extrêmes, y compris la grève de la faim. Donc ça, c'est le résultat des autres formes de lutte. Donc je ne sais pas s'il faut réinventer des formes de lutte ou s'il faut se battre pour les formes de lutte qui ont déjà payé dans ce pays et qui sont les seules qui ne mettent pas en danger la santé et la vie des gens.
C'était un reportage réalisé par Charles Ducrot et Luc Chaden pour Radio PFM lors de la manifestation qui s'est déroulée dans les rues de Lille le 9 octobre.